Alors, Madame Rueff, vous êtes grand reporter et journaliste à Libération. Vous avez séjourné de 1999 à 2002 en Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez donc écrit un livre l'année dernière qui est sorti chez Autrement, dans la collection Frontières, qui a pour titre donc Côte d'Ivoire, le feu au précaré. Alors, Madame Rueff, si je vous ai invité aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire et pour parler donc de votre ouvrage, c'est parce que je souhaiterais que nos auditeurs qui ont déjà, ceux qui sont fidèles à mon émission, ont déjà écouté la présidente du comité de l'association Vérité pour Guy-André Kieffer, Madame Aline Richard, parler de la disparition de votre confrère, Monsieur Guy-André Kieffer, à Abidjan, l'année dernière. Et je voudrais que dans cette émission, grâce à vous et à votre ouvrage qui est parfait, une excellente synthèse de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant la crise, je voudrais qu'on présente à nos auditeurs les protagonistes et le climat qui règne dans ce pays où a disparu M. Kieffer le 16 avril 2004. Alors, nous allons commencer par le premier protagoniste et pas des moindres, le président en exercice, M. Laurent Gbagbo. Il a à son actif la mort d'un journaliste, M. Jean Hélène. Et il a aussi à son actif, si l'on en croit donc l'enquête en cours et certaines déclarations de ceux qui sont proches de ce dossier, donc il serait responsable pour partie de la disparition de M. Guy-André Kieffer. Madame Rueff, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs M. Gbagbo ?
Alors, pour préciser, être un tout petit peu plus précis donc sur ce que vous venez de dire, c'est exactement l'entourage de Laurent Gbagbo qui est visé dans le cas de la disparition de Guy-André Kieffer, absolument, et plus précisément l'entourage de sa femme, hein, Simone Gbagbo, qui est donc l'épouse de Laurent. Dans le cas de Jean-Hélène, alors là, effectivement, on sait qui a tué Jean-Hélène, hein, c'est un policier, et si on peut mettre ça au compte de Laurent Gbagbo, c'est dans un cadre plus large, c'est-à-dire dans le cadre de la responsabilité qu'il a en tant que président du climat politique actuel.
Ses forces de police et armées, voilà. Puisque c'est un policier qui a tiré sur Jean-Hélène.
Absolument. Bon. Alors, pour présenter Laurent Gbagbo, il faut remonter un peu en arrière, évidemment, puisque à l'origine, c'est l'opposant historique au premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est quelqu'un qui s'est toujours opposé, d'abord comme leader du principal syndicat étudiant, la FECI. Ensuite, il a créé son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, qui est un parti qui est affilié à l'International Socialiste.
Alors, il faut préciser à nos auditeurs que l'International Socialiste, parce que M. Gbagbo en fait partie,
absolument.
Il a donc des relais à Paris, notamment M. Guy Laberty, du Parti Socialiste Français.
Oui, ce qui est un ami proche de Laurent Gbagbo depuis de très longues années, puisqu'en fait, au moment où il était en opposition, Laurent Gbagbo a dû, pendant quelques années, s'exiler en France, parce qu'il était persona non grata en Côte d'Ivoire, sous le régime de Houphouët-Boigny. Et donc, dans les années 80, il est parti en France. Et là, il a rencontré Guy Laberty, qui l'a même hébergé chez lui. Donc, c'est un ami vraiment proche depuis de longues années. Et d'ailleurs, au moment de l'élection de Laurent Gbagbo en octobre 2000, Guy Laberty s'est rendu en Côte d'Ivoire, à ses frais d'ailleurs, pour participer, en fait, pour être là au moment de l'élection de son ami de
longue date, on va dire. Absolument. Bien, par contre, en ce qui concerne l'International Socialiste, elle est présidée toujours par Monsieur Mauroy, je crois.
Oui.
Bien, alors il faut savoir qu'un certain nombre de membres de l'International Socialiste qui considèrent que M. Gbagbo est un danger pour l'image de marque du socialisme et de la démocratie en particulier, ont lancé un appel en disant qu'il doit quitter l'International Socialiste.
Oui, mais absolument, il y a un clivage en fait, dans les soutiens et les amitiés de Laurent Gbagbo en France, qui sont essentiellement à gauche, mais pas seulement, hein, on pourra peut-être y revenir, il a aussi des amis dans la droite française.
Je pense à M. Michel Roussin, l'ancien ministre de la Coopération, et l'ancien chef de cabinet de M. Jacques Chirac, qui est la vedette du procès des marchés truqués des lycées d'Île-de-France actuellement.
Par exemple, mais ce qui est certain, c'est que, bon, étant quand même socialiste, il a plus d'affinité donc avec avec la gauche. Mais aujourd'hui, même si ça a été assez lent, enfin assez tardif, on va dire, il y a quand même des gens, notamment au PS, qui sont très opposés à Laurent Gbagbo et qui veulent plus du tout, qui ne le soutiennent plus et qui veulent plus du tout entendre parler d'un soutien officiel de leur parti à ce régime.
Alors,
donc,
il faut
il y a des divisions internes. Il faut peut-être pas trop simplifier et faire croire qu'il est soutenu par les socialistes français. Ça serait pas tout à fait juste.
Alors, sachant que les personnes qui ont lancé cet appel, je précise à nos auditeurs parce qu'ils ont, comme ils sont fidèles de mon émission, ils ont eu à entendre l'avocat d'un juge célèbre pour un dossier d'un juge qui est non moins célèbre, qui était maître Olivier Maurice, pour l'affaire donc du juge Borrell qui a été assassiné à Djibouti en 1995. Mm-hmm. Donc il faut savoir qu'un certain nombre de ceux qui ont lancé cet appel sont aussi des députés qui régulièrement, année après année, je pense notamment à M. Montebourg, à M. Payon ou à Mme Yvette Roudy, ont refusé de voter les crédits à l'Assemblée nationale pour Djibouti tant qu'ils n'avaient pas d'explication claire sur le rôle joué par Djibouti ou la France dans ce qu'ils considéraient à l'époque, avant même que ce ne soit officiel, c'est-à-dire en 2002, sur la mort étrange du juge Borrell. Mmh. Donc ce sont pas n'importe qui ont lancé cet appel. Ce sont quand même des gens qui ont l'habitude d'être impliqués dans des affaires africaines, qui ont une définition de ce que la République doit faire en Afrique, et qui sont donc des militants de longue date. Mmh. Donc il faut le préciser pour ceux qui ont lancé cet appel.
Oui. Alors dans le cas de Laurent Gbagbo, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que quand il arrive au pouvoir, donc à l'automne 2000, effectivement, il a une image d'opposant historique, hein, qui est très positive en France, surtout dans la gauche française. Et il est très soutenu à ce moment-là. Il faut rappeler le contexte politique en France, c'est donc une cohabitation. Lionel Jospin est encore Premier ministre.
Exact.
Et donc Gbagbo,
c'est un frère.
C'est un frère en politique, exactement. Et puis il a quand même réussi quelque part à renverser le régime précédent qui était un régime militaire, hein, c'était le régime du général Guéï.
Qu'il a obtenu après un coup d'État en 99.
Absolument. Donc il arrive comme ça avec une bonne image de marque et les socialistes français décident de le soutenir et de l'aider et ils espèrent qu'il va pouvoir remettre le pays sur
les
rails.
Est-ce qu'on peut préciser que justement parmi les gens de gauche vraiment entièrement mondiste, il y a donc monsieur Guy-André Kieffer qui quitte alors la tribune alors qu'il y est depuis 18 ans, qui accepte de travailler donc pour monsieur Gbagbo et de faire l'audit de cette filière cacao pour justement permettre qu'il y ait moins de détournements et que les petits planteurs vivent vraiment de correctement de cette filière et qu'ils ne soient pas grugés entre guillemets. Donc c'est cette espèce d'élan qui a fait que des gens comme Guy-André Kieffer qui y croyait vraiment
se sont
engagés, parce que ça il faut bien l'expliquer à nos auditeurs parce qu'ils ne comprendraient pas.
Bien sûr, et je pense que si on reparlerait tout à l'heure de Guy Laberty, c'est aussi quelqu'un qui y croyait vraiment, il pensait vraiment, Laurent Gbagbo est arrivé avec un programme vraiment social, notamment l'école gratuite par exemple.
Et les soins de santé comme la sécurité sociale d'ici,
exactement,
on est d'accord.
Exactement, chose qui n'existe pas en Côte d'Ivoire, donc il y avait vraiment des idées très, très, très sociales, des idées de gauche qui l'annonçait et les gens, une partie en tout cas de la gauche française croyait qu'il serait capable de mettre ses idées en place et lui ont apporté son soutien.
Alors,
vrai que dans le cas de Guy-André Kieffer, la réforme de la filière cacao, c'est un point crucial. Il faut rappeler, la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao. Le cacao représente une énorme part de ses revenus. Et contrôler cette filière, évidemment, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est bien tout le problème, c'est-à-dire que dans une situation de guerre, c'est-à-dire 2 ans après son élection, septembre 2002, la rébellion prend la moitié nord du pays, on se trouve dans un état de guerre civile, en fait. Et à ce moment-là, il devient extrêmement important pour Gbagbo et le clan au pouvoir de contrôler cette filière, parce que tout simplement, c'est avec l'argent du cacao qu'il va pouvoir acheter des armes.
Oui. Alors, par contre, ce que d'autres personnes beaucoup moins naïves et beaucoup plus aguerries parce qu'elles ont une vision de longue date sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire et qu'elles ont la lecture du prisme France-Africain. Je pense notamment au chef au président de l'association qui lutte contre la France-Afrique, mm-hmm. Monsieur Verschave. Mm-hmm. Lui, par contre, il se faisait beaucoup moins d'illusions sur Monsieur Gbagbo, mm-hmm. et il était persuadé, et il a lancé des alertes en disant que justement contrôler cette filière cacao, ça ne servirait peut-être pas au bien-être des petits paysans et à mettre en place ce qu'on appelle la charte des droits fondamentaux, qui sont le droit à l'éducation, le droit à la santé, tout le reste, mais que ça servirait plutôt à acheter des armes. Et effectivement, on s'est rendu compte, et ça a été le cas. Bien. Alors, il faut préciser donc, Madame Rueff, que la filière cacao ne sert pas que à Monsieur Gbagbo pour les armes. Elle sert aussi à la rébellion et elle sert aussi à son principal opposant, qui est donc un homme du Nord, qui a été le premier ministre de Monsieur Wefwet. Je pense à Monsieur Alassane Dramé Ouattara.
Oui.
Pouvez-vous le présenter à nos auditeurs?
Alors, on peut dire que la filière cacao a servi en son temps donc à l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Évidemment, toute personne au pouvoir a comme premier objectif de contrôler cette filière. Aujourd'hui, c'est quand même il faut dire que géographiquement, le cacao il est cultivé dans la moitié sud du pays et essentiellement à l'ouest d'ailleurs, pays dont est originaire Laurent Gbagbo. Donc le contrôle, c'est vrai que la rébellion, quand elle a pris les armes, a voulu descendre justement assez loin, notamment à l'ouest, pour essayer de contrôler le grand port qui est San Pedro, oui. et contrôler cette filière, et ça aurait été vraiment crucial pour elle de le faire. Malheureusement pour elle, ils ont été repoussés, notamment avec l'aide des Français. Hein.
L'opération Licorne.
Absolument. Et donc ils n'ont pas pu contrôler cette filière et ils sont vraiment sur une moitié septentrionale de la Côte d'Ivoire qui elle est pauvre hein, du point de vue agricole. Donc pour revenir à Monsieur Ouattara, lui donc c'est un profil très très différent hein, de Gbagbo, puisque en fait c'est un profil de haut fonctionnaire international, plutôt économiste. C'est quelqu'un donc qui a fait ses études d'abord supérieures aux États-Unis et qui ensuite est revenu en Afrique de l'Ouest, et il a été d'abord à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, d'abord comme vice-gouverneur et ensuite comme gouverneur, avant d'être ensuite appelé donc par Houphouët Boigny au tout début des années 90 comme Premier ministre.
Alors, Madame Rueff, qui est excellente dans votre ouvrage, et je vous en remercie, sachant que j'ai une passion pour la Côte d'Ivoire, forcément, vu ma date de naissance et le lieu où je suis née, vous avez inclus un des derniers entretiens que Monsieur Kourouma a donné avant de décéder. Ouais. Monsieur Kourouma, donc c'est le grand écrivain de la Côte d'Ivoire, ouais. qui a dû s'exiler justement à cause des événements de Côte d'Ivoire. Ouais. Il a cru lui aussi au début à Gbagbo.
Absolument.
Il était très critique envers Monsieur Ouattara, parce qu'il est du Nord, il est donc de l'ethnie de gens du Nord, mais il se rappelle que Monsieur Ouattara, en tant que Premier ministre de Monsieur Houphouët, il a surfé sur le fin de règne de Monsieur Houphouët, qui, alors qu'au début, il a intégré toutes les populations et partagé le gâteau ivoirien, le miracle ivoirien avec toutes les ethnies, ce n'était pas à l'époque de Monsieur Houphouët, on pouvait très bien avoir un Monsieur Keïta deuxième personnage de l'État, parce que questeur de l'Assemblée nationale, on pouvait avoir un ministre comme Monsieur Bala Keïta, qui a été assassiné à Ouagadougou, peu de temps avant que n'éclate la crise ivoirienne. Donc en fait, c'est le premier assassinat politique, et son assassinat marque, quelque part, c'est le déclenchement de cette crise, et ça, peu de gens le disent, malheureusement, parce qu'il faudrait examiner comment il a été assassiné à Ouagadougou. Donc, en fait, Ouattara, pour surfer sur cette espèce de haine de l'étranger, parce que Houphouët Boigny se rendait compte que la rente de cacao s'effondrait et que le partage serait beaucoup plus difficile, donc il a sorti l'épouvantail donc des étrangers. Monsieur Ouattara donc a accepté mettre en place un système de contrôle et de carte des étrangers, des
cartes de séjour, hein, voilà. Précisément. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que donc si Alassane Ouattara était en fait imposé par les bailleurs de fonds internationaux, que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, comme Premier ministre. Bon, d'abord, c'est parce que Houphouët Boigny était malade et très vieux et qu'il n'arrivait plus à gouverner.
Il avait dilapidé la rente de cacao, il faut le dire aussi.
Effectivement, il y avait beaucoup de corruption, il y avait tout un tas de problèmes économiques, et surtout, il y avait la baisse des cours du cacao qui est un enjeu fondamental. Tout ça faisait que les grands argentiers, comme on les appelle, de l'économie mondiale, voulaient reprendre un peu les choses en main, voulaient qu'il y ait plus de rigueur aussi budgétaire en Côte d'Ivoire. Donc ils ont imposé un économiste, quelqu'un qui avait une vision comme ça très assez austère de ce que devait être une politique économique. Et à ce moment-là, c'est là que qu'Alassane Ouattara arrive dans des conditions donc de restriction budgétaire. Et pour faire entrer, alors à ce moment-là, effectivement, il ne se pose pas du tout en défenseur des gens du Nord.
C'est clair.
Parce que lui, il est du Nord, effectivement, mais après tout, cette cause du Nord, à ce moment-là, elle est encore embryonnaire, ah. Et il n'est pas du tout un héros. En revanche, ce qu'il a besoin, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et là, effectivement, dans un pays où il y a 26%, et à l'époque où c'était sans doute plus d'immigrés, de gens de tous les pays voisins d'Afrique de l'Ouest qui viennent travailler en Côte d'Ivoire parce que c'est le pays riche, eh ben, comment faire rentrer de l'argent dans les caisses? Eh ben, en imposant une carte de séjour, alors que, voilà, donc chaque étranger va devoir payer une petite somme, et à la fin, ça fait quand même des rentrées dans le...
Alors,
dans
Madame Rueff, je vous arrête parce qu'il faut arrêter de présenter Monsieur Ouattara comme étant un homme du Nord et comme étant un homme qui, quelque part, va défendre les intérêts du Nord. Je veux dire, il y a un certain nombre de gens qui ont fait un certain nombre d'enquêtes sur Monsieur Ouattara avant même qu'il arrive en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire. Je vous signale gentiment qu'il a eu comme chef de cabinet le Premier ministre de la Guinée, Monsieur Sidya Touré, et que Monsieur Sidya Touré est le gestionnaire d'une SCI, d'une société qui s'appelle la SOFIG, qui a été créée depuis les États-Unis par des hommes dans l'entourage de Mobutu pour gérer l'argent de Mobutu pour ce qui a servi à corrompre des parlementaires américains. Donc, excusez-moi, on ne peut pas avoir un chef de cabinet qui gère l'argent de Monsieur Mobutu, d'être le Premier ministre de la Côte d'Ivoire à ce moment-là et d'avoir ce chef de cabinet-là, et dire que c'est un homme intègre et tout machin. Non, il faut arrêter.
Si vous permettez de résumer mon opinion.
Voilà.
D'une part, je disais simplement qu'effectivement, à ce moment-là, Ouattara n'est pas du tout le héros de la cause du Nord. C'est ce qu'explique Amadou Kourouma dans
très
le
bien,
livre.
D'ailleurs.
Très bien, il dit, voilà, lui, ce qui l'intéresse, s'il fallait être anti-immigré, enfin, en tout cas, suffisamment pour imposer une carte de séjour, il le faisait, c'était assez peu son problème. Mais si vous voulez, moi, ce que j'ai vu pendant la période où j'étais en Côte d'Ivoire, c'est que quelque part, il est devenu ce héros de la cause du Nord, et quelque part aussi, je pense que ça le dépasse beaucoup. C'est-à-dire que c'est comme me disaient des gens que j'interviewais du côté de Korogo, là, dans le nord de la Côte d'Ivoire,
oui.
Il disait « Ouattara ne s'appartient plus ». Et je pense que c'est très révélateur de ce que pense
oui.
Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Ouattara est devenu pour eux une sorte de symbole vivant, et que on lui donne pas le choix finalement de ce qu'il a à faire. Il est visé en tant que personnage comme ça symbolique, et ça va bien au-delà de sa personne.
D'accord. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a aussi l'espèce de manège autour de sa nationalité qui serait douteuse parce qu'il serait né en fait au Burkina Faso, ce qui est le cas pour ses parents mais pas pour lui. L'espèce d'article 35. Donc on comprend que ce soit devenu
voilà, une cause, il est devenu quelque chose qui symbolise tout un tas de problèmes les gens du Nord de la Côte d'Ivoire rencontrent quotidiennement.
On est d'accord. Mais bon, qu'il faudrait dire quand même aux Ivoiriens qui nous écoutent et aux autres, c'est que ce n'est certainement pas M. Ouattara qui va faire mieux que M. Gbagbo. Et c'est le travail d'un certain nombre d'associations qui disent les vérités et qui disent les choses sur le plan france-africain. Je vous renvoie aussi de l'association Survie. Je vous renvoie à tous les sites alternatifs qui disent la vérité sur ces hommes politiques. Il n'y en a pas un pour remplacer l'autre. Et... bon, il faut faire attention. Et nous avons dans ce pays un journaliste qui a disparu depuis le 16 avril 2004, Monsieur Guy-André Kieffer. Alors, Madame Aline Richard et son association ont créé un site. Ça s'appelle donc guyandrekieffer.org, vérité pour guyandrekieffer.org. Vous avez les coordonnées de ce site sur le site internet. Je vous encourage à aller le visiter, à envoyer des messages de soutien à l'association. Madame Rueff a écrit donc le livre aux éditions Autrement, Côte d'Ivoire, le feu au précaré. Pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire.